L'air est suffocant. Ça pire.
Tu vois ce qu'ils ont fait pour la requête de Villerville? Ça, ils l'ont pas raté.
Vous avez pu reconnaître un extrait du film de 1993, Les Visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiré. Qualité de l'air et pollution, ce sont bien les spécialités de notre invité, Alain Laplanche. Bonjour.
Oui, bonsoir à tous vos éditeurs.
Vous êtes le président de l'association Airbraze, l'association qui mesure quotidiennement la qualité de l'air dans la région depuis plusieurs villes. La première question que j'aurais aimé vous poser, c'est comment est-ce que vous mesurez ces données et depuis quand?
Alors l'association a été créée par la loi LAURE en 1998 et nous mesurons la qualité de l'air à partir de deux outils principaux. Le premier, ce sont nos capteurs qui mesurent effectivement les polluants, un certain nombre de polluants présents dans l'air. Et ces capteurs sont situés dans les principales villes de Bretagne, que ce soit Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient, Vannes. Et nous avons également des capteurs au centre Bretagne, qui est une station un peu particulière, qu'on appelle une station de fond, c'est-à-dire là où il y a très peu de pollution due à l'homme, mais simplement, disons, un peu de pollution agricole. Alors, le deuxième volet par rapport à ces capteurs, c'est que nous utilisons de la modélisation informatique et nous utilisons les résultats de deux logiciels, un logiciel national qui s'appelle Prévert et un logiciel pour le nord de la France développé par Air Paris qui s'appelle Esmeralda. Ces logiciels nous permettent d'avoir une vue générale de la pollution de l'air et de prévoir la pollution de l'air à J plus 1 et à J plus 2.
Et quels sont les indices que vous utilisez pour alerter sur cette pollution?
Alors, nous utilisons un indice officiel qui a changé d'ailleurs au 1er janvier 2021. Donc, c'est l'indice de la qualité de l'air qui est basé sur 5 polluants. D'abord, les deux polluants qui sont caractéristiques des particules fines, ce qu'on appelle les PM10 pour particules inférieures à 10 microns, les PM2,5 pour les particules inférieures à 2 microns et demi, ce sont celles-là qui sont les plus dangereuses. Ensuite, un polluant qui est plus un polluant dû au transport et des émissions dues aux différents véhicules qui sont les oxydes d'azote. Ensuite, un quatrième polluant qui est peu présent en Bretagne, mais qui est un polluant essentiellement industriel, qui est le dioxyde de soufre. Et enfin, nous mesurons un polluant qu'on appelle secondaire, parce qu'on n'en émet pas, mais il se forme dans l'atmosphère. Et ce polluant s'appelle l'ozone.
Vous les avez évoqués déjà, mais quelles sont les causes de cette pollution de l'air et de ces productions-là?
Alors, les causes, elles sont multiples. Il y a d'abord, évidemment, la pollution de fond que nous pouvons enregistrer parce que la qualité de l'air, elle part d'un niveau qui n'est pas un niveau zéro, mais qui est un niveau avec un certain nombre de polluants qui existent sur toute la planète. Ensuite, à cette pollution de fond, vient se rajouter des pollutions plus locales ou régionales. Et à ces pollutions locales et régionales, viennent se rajouter des pollutions qui peuvent venir parfois de très loin. On peut, dans nos calculs, regarder faire ce qu'on appelle des rétro-trajectoires et regarder que la masse d'air qu'on a aujourd'hui en Bretagne, eh bien, elle peut venir d'Allemagne, elle peut venir d'Angleterre, elle peut venir de Belgique, etc. Et donc, ces masses d'air, souvent, sont chargées en polluants et ça vient se rajouter à la pollution locale. Maintenant, pour avoir une vraie pollution sur une région, c'est surtout une question de météorologie. On a une pollution quand le temps est très calme, en hiver, lorsqu'il peut être froid au niveau du sol, et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une inversion de température. C'est-à-dire qu'en pratique, l'air chaud, il monte, mais lorsque votre sol, il est plus froid que ceux qui se trouvent à 100 ou 200 mètres au-dessus de vous, eh bien, c'est comme si vous mettiez le couvercle sur la cocotte minute, et donc tous les polluants, ils restent piégés au niveau de là où nous respirons.
Vous nous avez parlé du froid, donc, qui peut être responsable de cette pollution-là. Justement, en décembre dernier, vous avez alerté là-dessus sur la pollution de l'air, quand il faisait froid, justement. Est-ce que c'était normal, quand même, d'arriver à ces niveaux-là en Bretagne de pollution?
Oui, dans toutes les régions françaises, il y a des épisodes de pollution qui peuvent être plus ou moins longs ou plus ou moins importants. La Bretagne n'est pas la région la plus polluée de France. Hein. Il vaut mieux habiter en Bretagne que d'habiter des grandes villes comme Paris, comme Lyon, ou bien dans des vallées très encaissées, comme la vallée de l'Arve, où d'ailleurs il y a une pollution qui est due essentiellement au transport, mais également quelque chose que souvent vos auditeurs ne savent pas, il y a un polluant qu'on ignore souvent, c'est le chauffage au bois. Le chauffage au bois n'est pas polluant quand ce sont des grosses installations ou des installations modernes qui utilisent par exemple des chaudières à granulés. Mais quand vous avez une belle cheminée là, bien ouverte ou des vieux inserts et que vous utilisez du bois de mauvaise qualité, c'est extrêmement polluant. Ça pollue plus que toutes les voitures qui peuvent circuler.
Vous travaillez essentiellement sur la région Bretagne, même que sur la région Bretagne.
Nous ne travaillons que sur la région Bretagne. Nous avons des homologues qui travaillent sur les autres régions. Il y a une association comme la nôtre, par région française.
Est-ce qu'il y a des zones donc en Bretagne qui sont peut-être plus polluées que d'autres ou plus sujettes à...
Alors, les zones les plus polluées en Bretagne, on a un petit gradient de l'ouest vers l'est, si on peut être simple. Et évidemment, les villes sont généralement un peu plus polluées que les campagnes, parce que vous avez toute cette circulation qui va apporter des polluants. Et on s'aperçoit qu'évidemment, sur la région Bretagne, peut-être il y a un petit surplus de pollution, c'est peut-être la région rennaise. Et également, on a quelques points un petit peu aberrants sur la région de Saint-Malo, parce qu'on s'aperçoit qu'à Saint-Malo, le taux de particules fines est un peu plus important en moyenne que sur la ville de Rennes ou sur la ville de Saint-Brieuc, par exemple, pour prendre une autre ville côtière.
Et quels sont les impacts de cette pollution sur notre santé ?
Alors, les impacts sur la santé, pour quelqu'un qui se porte très bien, aujourd'hui, dans un pays comme la France, il n'y a pas de vrais impacts, disons, immédiats. En revanche, le premier impact, lorsqu'on a un épisode de pollution, va se faire sentir sur les personnes qui sont fragiles. J'appelle des personnes fragiles, des personnes qui ont de l'asthme, les personnes qui ont des insuffisances respiratoires. Ils vont rapidement sentir la pollution. Maintenant, si on élargit, la pollution, elle est néfaste partout pour tout le monde. Et les épidémiologistes, ils calculent que la pollution va venir, quelque part, diminuer l'espérance de vie. On dit qu'en France, aujourd'hui, il y a environ 48 000 décès prématurés dus à la pollution. C'est essentiellement les particules fines qui sont responsables de ces décès prématurés, un petit peu les oxydes d'azote et un tout petit peu l'ozone. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a mis des barrières, des objectifs de qualité qui sont beaucoup plus restrictifs ce qu'ils étaient par rapport à ce qu'ils avaient émis en 2005. Ça date donc, c'est tout récent. Par exemple, l'OMS préconise pour que la pollution de l'air n'ait aucun impact sur un citoyen, c'est que les particules fines de diamètre inférieur à 2 microns 5 soient inférieures à 5 microgrammes par mètre cube. Et ils l'ont divisé par 2, la valeur. C'était 10 auparavant. Et pour les oxydes d'azote, pour la pollution par les voitures, l'OMS préconise à long terme d'arriver à descendre en dessous de 10 microgrammes par mètre cube. Juste pour vous dire où on en est, à Rennes, en particules fines de PM2,5, en moyenne, on est à peu près à 9,5. À Brest, on est un peu plus bas. À Vannes, on est un peu plus bas. On est aux alentours d'entre 7 et 8.
Et ça change quoi concrètement, ces changements-là de normes ?
Eh bien, ces normes vont obliger les responsables à la fois politiques, les responsables associatifs, eh bien, à faire des efforts. Quand on parle d'amélioration de la qualité de l'air, il est évident que si un jour on arrive à avoir un petit peu moins de voitures avec des moteurs polluants, si on passe à plus de voitures électriques, en particulier si les poids lourds et les autobus passent soit à l'électrique, soit à l'hydrogène, parce que c'est une autre voie pour les gros véhicules. Si par exemple on arrive à éradiquer complètement les chauffages au fioul, pour les remplacer par soit des chauffages électriques, à éradiquer les chauffages au bois non performants, etc., eh bien, on va améliorer cette qualité de l'air. Je crois que la qualité de l'air, c'est tout le monde est responsable. Tout le monde peut faire des efforts. On ne se rend pas compte qu'on pollue, tout le monde pollue, hein. on est tous des pollueurs, mais en faisant des efforts, on peut arriver à avoir moins d'émissions, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit au niveau tertiaire ou au niveau de toutes les activités humaines que nous pouvons avoir. Et sans oublier le monde de l'agriculture également.
Le 20 décembre dernier, la métropole de Rennes a présenté son plan pour améliorer la qualité de l'air. C'est le troisième. Vous avez travaillé avec eux sur ce plan.
Voilà, le PPA, le plan de protection de l'atmosphère.
Qu'est-ce que c'est que ce plan concrètement? Qu'est-ce qui va changer?
Eh bien, ce sont des mesures qui sont prises tout au cours, disons, de l'exercice de ce plan pour essayer justement de faire diminuer cette pollution qu'on enregistre. Et tous ces plans ont quand même des résultats. Parce que si on regarde ce que nous mesurons depuis maintenant plus de 20 ans, eh bien, on s'aperçoit premièrement que les émissions baissent, les émissions de polluants, parce que ça, on les calcule. Et deuxièmement, que les concentrations moyennes sont aussi à la baisse. Donc, évidemment, on est sur des pentes vertueuses et tous ces plans ont pour objectif que la pente soit au moins ce qu'elle était avant, soit un peu plus prononcée.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on réduit le nombre de voitures en centre-ville, qu'on peut-être met des arbres plus dans
alors,
le centre?
Alors, tout est bon. Alors, c'est les fameuses zones à faible émission qui deviennent obligatoires pour toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Donc, ça peut essayer de réduire le nombre de voitures au centre-ville. Mais, si vous voulez, il n'y a pas que ça. C'est aussi inciter à avoir des transports plus doux, que ce soit des déplacements à pied, en vélo, ou des déplacements en transport en commun, faire du covoiturage de façon à limiter un petit peu cette utilisation qu'on a aujourd'hui de la voiture particulière. Il y a des statistiques qui ont été faites. Le matin à 8 heures, vous avez un conducteur, 0,06 par voiture.
Il y a une autre chose pour laquelle est connue la ville de Rennes, c'est sa ceinture verte. C'est une ville qui n'est pas très étendue par rapport à sa taille. Est-ce que cette ceinture est encore efficiente?
Alors la ceinture verte, elle a vraiment un rôle un petit peu pour ne pas complètement urbaniser. C'est un projet qui date de très longtemps. Cette ceinture verte a été imaginée par un maire qui était bien ancien, qui s'appelait Henri Fréville, hein, et qui a imaginé que la métropole rennaise, ce soit une métropole un petit peu archipel, avec un centre-ville et des villes périphériques qui soient, disons, distantes de quelques kilomètres. Cette ceinture verte est bénéfique pour la métropole rennaise. Maintenant, peut-être juste pour revenir à la pollution, nous avons fait des mesures sur la rocade de Rennes. La rocade de Rennes, il y a beaucoup, si on peut faire la mesure au niveau de la rocade ou à proximité de la rocade, les niveaux d'oxyde d'azote sont très élevés et il faut à peu près entre 150 et 200 mètres pour que le niveau redevienne à une valeur de fond.
Alain Laplanche, merci beaucoup.
Voilà, j'espère vous avoir appris quelques rudiments sur la pollution de l'air. Bon, on pourra en parler beaucoup plus longuement.
Évidemment, évidemment. On retrouvera de toute façon vos mesures dans les médias et même pour aider les institutions publiques.
Oui, je peux rajouter un mot?
Allez-y, allez-y.
Eh ben, je peux inviter tous les auditeurs qui s'intéressent à la pollution de l'air. Vous allez sur le site d'Airbraze et vous avez en temps réel, avec à peu près un décalage de 2 heures, les mesures de tous nos capteurs fixes de toute la Bretagne.
Merci beaucoup. On va se quitter sur une musique de circonstance qui va nous parler de notre environnement, mais surtout de notre besoin de respirer.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. va pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.